لجنة.org على شبكة الإنترنت تقدم لكم
et éclaircissements sur le pèlerinage, la Umra et la visite à la Sainte Mosquée du Prophète.
Des explications détaillées vous sont proposées avec, à l'appui, des versets coraniques et des hadiths du Prophète sur
les rites, les devoirs, les obligations, les actes prohibés, l'offrande et bien d'autres questions concernant l'accomplissement du cinquième pilier de l'islam qu'est le pèlerinage de la Sainte Maison d'Allah, l'accomplissement de la Umrah et la visite de la mosquée du prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui.
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك.
Le pèlerinage et la Umra en islam. Quelles en sont les prescriptions?
Sachez donc qu'Allah m'aide et vous aide à la connaissance de la vérité et de la suivre. Qu'Allah, gloire et honneur à lui, a fait devoir à ses serviteurs croyants d'aller au pèlerinage à sa maison. Et on a fait un pilier de l'islam. Le tout a dit
« وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ.
Et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens d'aller faire le pèlerinage de la maison. Et quiconque ne croit pas, Allah se passe largement des mondes.
Et dans As-Sahihayn, rapporté par Omar, qu'Allah soit satisfait de lui, ce hadith du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, qui dit
« L'islam est bâti sur cinq piliers. Le témoignage qu'il n'y a de divinité qu'Allah et que Mohammed est l'envoyé d'Allah, l'office de prière, l'aumône, le jeûne du mois de Ramadan et le pèlerinage à la maison sainte d'Allah. »
Saïd a rapporté dans ses sunnahs ses propos de Omar ibn Khattab, qu'Allah soit satisfait de lui, que le prophète Mohammed paix et bénédiction d'Allah sur lui a dit
« J'ai entrepris d'envoyer des hommes dans ces régions pour y chercher ceux qui étaient riches et qui n'avaient pas fait leur pèlerinage, pour leur faire payer le tribut. » Car ce ne sont pas des musulmans. Non, ce ne sont pas des musulmans.
On rapporte que Ali a cité que le prophète a dit
« Pressez-vous d'aller en pèlerinage, car aucun de vous ne sait ce qui peut lui arriver. »
Hadith rapporté par Ahmed. parce que l'accomplissement du pèlerinage est une obligation expresse due par celui qui en a la possibilité, conformément aux paroles évidentes du tour.
Et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens d'aller faire le pèlerinage de la maison. Et quiconque ne croit pas, Allah se passe largement des mots.
Et conformément au dire du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui dans son sermon, qui a dit
« Ô vous les gens, Allah vous prescrit de faire le pèlerinage, alors accomplissez-le. »
Hadith rapporté par Muslim. On a également rapporté des hadiths qui démontrent que la Umrah est obligatoire, parmi lesquels ce qu'a dit le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui dans sa réponse à Jibril, lorsque celui-ci l'a interrogé sur la signification de l'islam. Le prophète a dit
« L'islam consiste à ce que tu témoignes qu'il n'y a de divinité qu'Allah et que Mohammed est l'envoyé d'Allah, que tu fasses l'office de prière, que tu fasses l'aumône, que tu ailles en pèlerinage à la maison d'Allah, que tu fasses la Umrah, que tu te laves pour te purifier après les rapports conjugaux, que tu complètes par les ablutions, et que tu jeûnes pendant le Ramadan. »
Rapporté par Ibn Khuzaymah et Daraqutni par le hadith de Omar ibn Khattab, qu'Allah soit satisfait de lui, et Daraqutni a dit, c'est une référence assurément authentique. Ce hadith de Aïcha dit,
« Ô envoyé d'Allah, est-ce que les femmes doivent faire un jihad, c'est-à-dire une lutte dans le sentier d'Allah ?» Il dit, « Elles doivent faire le jihad sans lutter, en accomplissant le hajj et la umrah. »
Hadith rapporté par Ahmad et Ibn Majah est de source authentique. Le hajj n'est obligatoire qu'une seule fois dans la vie, de même que la umrah, conformément au dire du prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, dans ce hadith authentique,
le hajj se fait une fois et celui qui en ajoute, ce n'est que volontariat.
Il est recommandé par la tradition d'aller volontairement en pèlerinage à plusieurs reprises, conformément à ce qui est rapporté par Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, dans As-Sahihayn. Le prophète, Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit
la umrah qui suit une umrah précédente est une expiation des péchés commis dans l'intervalle. Et le pèlerinage pieux n'a de récompense que le paradis.
Labbayk Allahumma labbayk, labbayk la sharika lak labbayk, innal hamda wan ni'mata.
Comment une personne doit-elle se préparer pour le pèlerinage ou pour la umrah? Quelle disposition doit-elle prendre?
Lorsque le musulman décide de partir en pèlerinage pour le hajj ou pour la umrah, il lui est préférable de recommander aux siens et à ses amis la crainte d'Allah, le Tout-Puissant, le Très-Haut, qui consiste à obéir à ses ordres et sans péché ses interdits. Il doit préciser par écrit en présence de témoins les dettes qu'il doit et qui lui sont dues. Il doit s'engager à un véritable repentir de tous ses péchés conformément aux paroles du Tout-Puissant.
Et repentez-vous tous devant Dieu, ô croyants, peut-être serez-vous gagnants.
Le repentir authentique consiste pour le pèlerin à cesser de commettre des péchés, à les désavouer, à regretter ce qui en a été commis et à décider de ne plus y revenir. Et s'il constate qu'il a été injuste envers les autres, vis-à-vis de leur personne, de leur bien ou de leur honneur, il devra s'en acquitter ou se faire délier de leur part avant de partir, conformément à ce qu'on a rapporté du prophète paix et bénédiction d'Allah sur lui qui a dit
« Celui qui s'est montré injuste envers autrui, ses biens ou son honneur, doit s'en délier aujourd'hui avant qu'il ne soit dinar ou dirham lors de la résurrection. S'il a fait de bonnes œuvres, on en déduira autant que son injustice, et s'il n'a point de bonnes œuvres, on prendra des péchés de son confrère pour l'en accabler. »
Il doit également financer son hajj et sa umrah par des biens purs et des moyens licites, conformément à ce qu'on rapporte du prophète paix et bénédiction d'Allah sur lui qui a dit
« Allah le Tout-Puissant est pur, il n'agrée que ce qui est pur. »
Tabarani rapporte de Abu Huraira ceci. Le prophète paix et bénédiction d'Allah sur lui a dit
« Lorsqu'un homme part en pèlerinage avec des moyens purs et met son pied dans l'étrier en appelant « Labbayk Allahumma Labbayk » une voix l'appelle du ciel, la baïka, ô bienheureux, tes provisions sont licites, ta monture est licite,
ton pèlerinage est pur et sans péché. Et s'il part avec des moyens impurs et met son pied dans l'étrier en disant « Labbaik Allahumma labbaik », une voix l'appelle du ciel « Pas de labbaik, ô malheureux, tes provisions sont illicites, tes dépenses sont illicites et ton pèlerinage est impur. »
Il faut que le pèlerin se suffise de ce qu'il possède et qu'il évite de demander aux autres ce qu'ils détiennent, conformément au hadith du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, qui a dit
« L'homme qui s'abstient, Dieu l'aide à être abstinent, et celui qui se dispense des gens, Dieu l'enrichit. »
Et l'autre hadith
« L'homme qui ne cesse de demander le monde aux gens arrivera, le jour de la résurrection, avec le visage complètement décharné. »
Le pèlerin doit avoir l'intention d'agir en vue d'accéder à la satisfaction d'Allah dans le-delà, en accomplissant son pèlerinage ou sa omra. Et tout ce qu'il fait et ce qu'il dit dans ces lieux saints doit aller dans ce sens. Il doit se garder vivement de viser par son pèlerinage la vie ici-bas, et c'est bien périssable, ainsi que la renommée, la vanité, et de s'enorgueillir, car cela est de visée récurrente et la cause principale de l'échec de son entreprise et de son désaveu, tel que c'est mentionné dans les paroles du Tour.
من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها
Ceux qui veulent la vie présente avec sa parure, nous les rétribuerons exactement selon leurs actions sur terre, sans que rien leur en soit diminué. Ceux qui n'ont rien dans l'au-delà que le feu. Ce qu'ils auront fait ici-bas sera un échec et sera vain ce qu'ils auront œuvré.
Et le Très-Haut a dit
« Man kana yuridu al-ajila fa'ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura » ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا.
Quiconque désire la vie immédiate, nous nous hâtons de donner ce que nous voulons à qui nous voulons, puis nous lui assignons l'enfer où il brûlera méprisé et repoussé. Et ceux qui recherchent l'au-delà et fournissent les efforts qui y mènent, tout en étant croyants, alors l'effort de cela sera reconnu.
On atteste que le prophète, le Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit
« Allah le Tout-Haut a dit « Je suis celui qui doit être épargné de toute association, celui qui fait une œuvre, tout en y associant quiconque à moi, je l'abandonne, ainsi que sa mauvaise action. »
Le pèlerin devra rechercher la compagnie des sages, parmi les gens obéissants et qui font preuve de crainte d'Allah, de connaissance de la religion, et évitera en conséquence la compagnie de gens impudents et pervers.
Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik.
Que doit faire un pèlerin à son arrivée au miqat?
Lorsque le fidèle arrive au miqat, lieu prescrit pour l'Ihram, il est préférable qu'il se lave, qu'il se parfume, conformément à ce qu'on rapporte que le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, s'est débarrassé de tout vêtement cousu au moment de l'Ihram et s'est lavé. Et comme il est rapporté dans Al-Sahihayn, ce hadith de Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, qui a dit « J'aidais l'envoyé d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui, à se parfumer en vue de sa sacralisation avant sa procession autour de la Kaaba, son tawaf. » Et le prophète a ordonné à Aïcha en période de menstrue, alors qu'elle était en Ihram pour la Omra, de se laver pour l'Ihram du Hajj. Et il a ordonné paix et bénédiction d'Allah sur lui à Asma ibn Zumaïs, qui avait accouché à Zilhulaïfa, de se laver, d'assurer sa protection contre l'écoulement du sang et de s'abstenir en vue des charmes. Cela prouve que la femme qui arrive au miqat, alors qu'elle est en période de menstruation ou d'accouchement récent, se lave et se met en état d'ihram comme les autres gens et doit faire le même rite que l'homme, sauf le tawaf autour de la Kaaba, comme l'a ordonné le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, à Aïcha et Asma. Il est préférable pour celui qui vise l'ihram de raccourcir ses moustaches, de se couper les ongles, d'épiler son pubis et ses deux aisselles, dans la limite de ce qui est dû et nécessaire, car il devra s'en abstenir par la suite à cause de son ihram et du fait que cela lui sera désormais interdit, parce que le prophète, les bénédictions d'Allah sur lui, a légiféré aux musulmans de traiter et d'entretenir ces choses régulièrement, comme ce qui a été rapporté dans As-Sahihayn par Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, qui a dit, le messager d'Allah, les bénédictions d'Allah sur lui, a dit,
il est naturel que l'on procède à 5 actes, la circoncision, l'épilation du pubis, la coupe des moustaches, la coupe des ongles et l'épilation des aisselles.
Et bon, à Sahih de Muslim, qu'Allah soit satisfait de lui, Anas a dit, il nous est ordonné de se couper la moustache, de se couper les ongles, de s'épiler les aisselles et le pubis, une limite de temps qui ne doit pas excéder 40 nuits. En effet, il le rapporte formulé ainsi, le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, nous a fixé le moment de, rapporté par Ahmed et Abu Daoud et At-Tirmidhi dans le même texte que An-Nasa'i. Quant à la tête, il n'est pas légiféré d'en enlever une partie des cheveux au moment de l'Ihram, tant pour l'homme que pour la femme. Pour ce qui est de la barbe, il est prohibé de la raser ou d'en enlever une partie à tout moment. Il faut plutôt la laisser pousser conformément au hadith rapporté dans As-Sahihayn, selon lequel Ibn Umar, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit, le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit,
soyez différents des associateurs, ménagez les barbes et coupez les moustaches.
Muslim rapporte dans son recueil, Sahih, que Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit, le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit,
raccourcissez les moustaches et ne touchez pas aux barbes. Soyez différents des mages.
Et à notre époque, le comble est de voir les gens désobéir à ces sunnahs et combattre le port de la barbe, tout en étant satisfaits de ressembler aux impies et aux femmes, et surtout parmi ceux qui appartiennent au corps enseignant et à la science. Nous sommes à Allah et nous retournons à lui. Qu'Allah nous guide, ainsi que l'ensemble des musulmans, vers l'agrément de la sunnah, afin de nous y attacher et d'appeler à ce qu'elle soit suivie, même si plusieurs s'en sont écartés. Allah nous suffit et nous nous confions à lui. Et il n'y a de puissance ni de force que par Allah le Très-Haut, le Très-Grand. Puis le pèlerin mâle doit mettre un pagne autour de sa taille, jar, et une houppe lente sur le tronc, riba, de préférence de couleur blanche, très propre. Il est recommandé de porter au pied des sandales, conformément au hadith du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui,
que chacun de vous se mette en état d'ihram, portant un pagne, une houppelande et des sandales.
Hadith rapporté par l'imam Ahmed, qu'Allah lui accorde la miséricorde. Quant à la femme, il lui est permis de se mettre en état d'ihram avec les vêtements qu'elle désire, en noir, en vert ou autre, avec la précaution de ne pas ressembler aux hommes. Et il faut noter à ce propos qu'il n'a jamais été question de limiter l'ihram de la femme à la prescription du noir ou du vert, à l'exception d'autres couleurs, comme le prétendent certains. Puis, après le bain et le nettoyage, et le port des vêtements spécifiés pour l'ihram, le pèlerin formule l'intention en son fort intérieur d'accomplir le rite qu'il désire, soit le hajj, soit la omra, soit les deux, conformément au hadith du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui.
Les œuvres valent par les intentions, et chacun sera sanctionné selon l'intention de son acte.
Il est recommandé de prononcer ouvertement ce qu'il a l'intention de faire s'il vise la Umrah. Il dira « Labbayka Umrah » ou « Allahumma Labbayka Umrah ». Et s'il vise le Hajj, il dira « Labbayka Hajjan » ou « Allahumma Labbayka Hajjan ». « Seigneur, j'accours à ton appel pour ». Il est meilleur de formuler l'intention au moment où on est parfaitement installé sur sa monture, animal, voiture, etc., car le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a formulé son intention après s'être installé sur sa monture au moment où elle est partie du miqat. telle est la meilleure pratique selon les gens de connaissance. Et on ne prononcera ouvertement ce qu'on a l'intention d'accomplir qu'après l'entrée en état d'ihram, conformément à ce qu'on a rapporté du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Quant à l'office de prière, le tawaf, autour de la Kaaba et les autorites, il ne devra pas en exprimer l'intention ouvertement, et donc il ne dira pas « j'ai l'intention de faire la prière du nid, j'ai l'intention de faire le tawaf de ». La prononciation de telles formules est une innovation indésirable. Le fait de les dire à haute voix, et si la prononciation de l'intention avait été légitime, le prophète paix et bénédiction d'Allah sur lui l'aurait indiqué et précisé à la communauté par un acte ou un dire, et nos divins ancêtres l'auraient fait avec empressement. Et puisqu'on ne l'a pas rapporté du prophète paix et bénédiction d'Allah sur lui, ni de ses compagnons, qu'Allah soit satisfait d'eux, cela est considéré comme une innovation. Et le prophète paix et bénédiction d'Allah sur lui a dit,
les pratiques rituelles innovées sont mauvaises et toute innovation est égarement.
Hadith rapporté par Muslim dans son ouvrage Sahih.
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة.
Quelle est la répartition des miqats selon la provenance des pèlerins?
On compte 5 miqats. Le premier, le miqat des gens d'Al-Madina Munawwara, c'est Zulfulayfa, appelé communément aujourd'hui Abiyar Ali. Le deuxième, Al-Juhfa, est le miqat des pèlerins qui viennent d'Asham, c'est un village en ruine, situé après Rabia. Et les gens de nos jours se mettent en état d'ihram à partir de Rabia, et celui qui agit ainsi se conforme au miqat, car Rabia est à proximité d'Al-Juhfa. Le troisième, Qarnul Manazil, est le miqat de ceux qui viennent du Najd, appelé également As-Sayl. Le quatrième, Yalamlam, est le miqat des gens du Yémen. Et le cinquième, Dazirq, qui est le miqat de ceux qui viennent d'Irak. Ces miqats sont fixés par le prophète Mohammed B. bénédiction d'Allah sur lui pour ceux que nous avons cités et pour ceux qui y passent pour le pèlerinage, le hajj ou l'arba. Le pèlerin qui passe par ces lieux doit faire son ihram à partir de ces miqats. Il lui est interdit de les dépasser sans ihram. S'il a l'intention d'aller à Mecque al-Mukarrama en vue du pèlerinage de la Umrah, et quelle que soit la voie empruntée, aérienne ou terrestre, conformément au hadith du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, à propos des miqats, le prophète a dit,
ces lieux sont les miqats, pour ceux qui y habitent, et pour ceux qui passent par ces endroits, parmi les pèlerins du Hajj ou de la Umrah.
Les pèlerins qui habitent en deçà des lieux du miqat, tels les habitants de Jeddah, Umm Salam, Bahra, Esharaï, Badr, Mastoura, ne sont pas obligés d'aller vers les miqats cités, mais leur résidence et leur lieu de miqat, et ils y feront leur ihram en vue du hajj de la Umrah. Celui qui possède une autre habitation à l'extérieur du miqat, il a le choix entre commencer l'ihram à partir du miqat indiqué, ou le commencer à partir de son habitation qui est plus proche de Makkah al-Mukarrama, conformément à ce qu'a dit le prophète, bénédiction et paix d'Allah sur lui, dans un hadith rapporté par Ibn Abbas, à propos des miqats, le prophète a dit,
celui qui se trouve en deçà, son ihram se fait à partir de sa maison, même les gens de Mecca al-Mukarrama se mettront en état d'ihram à Mecca.
Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik.
Concernant celui qui arrive au miqat en dehors des mois indiqués pour le pèlerinage,
il est à noter que le pèlerin peut arriver au miqat dans deux circonstances. Premièrement, il arrive en dehors des mois indiqués pour le pèlerinage, comme par exemple pendant le mois de Ramadan ou Shaban. Alors la tradition, la sunna, lui prescrit de se mettre en état d'ihram pour la Umrah, dont il formulera l'intention en son fort intérieur, et puis il prononcera ouvertement le Baïka Umrah ou Allahumma le Baïka Umrah. Puis il prononce la Talbiya à la manière du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, qui est
le Baïka Allahumma le Baïk, le Baïka la Sharika laka le Baïk, Inna alhamda wa ni'mata laka wal mulk la Sharika lak.
Ce qui signifie
me voici Seigneur, je réponds à votre appel. Seigneur, je réponds à votre appel. Les louanges et le bienfait sont pour vous, ainsi que la royauté où vous n'avez pas d'associé.
Il répétera plusieurs fois cette talbiya, ainsi que le rappel d'Allah, gloire à lui, jusqu'à l'arrivée à la Sainte Mosquée. À ce moment, il cesse la talbiya et fait son tawaf autour de la Kaaba 7 fois, après quoi il fait l'office de prière en Dolkha derrière le Maqam, la station d'Abraham, paix sur lui. Puis il va au Safa et de là, il procède au parcours déterminé entre Safa et Al-Marwa, 7 fois également, puis il se rase les cheveux ou il les raccourcit. Ainsi s'achève la Umrah et toutes les interdictions de l'Ihram redeviennent permises. Deuxièmement, le pèlerin arrive au Miqat dans les mois du pèlerinage, Hajj, qui sont Shawwal, Dhul-Qa'da, et les 10 premiers jours de Dhul-Hijja. Dans ce cas, il a le choix entre 3 possibilités. Accomplir le Hajj uniquement, Al-Mufrid, accomplir la Umrah puis le Hajj, Al-Mutamatti', assembler les deux rites, Al-Muqrin. Car le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a laissé à ses compagnons le choix entre ces 3 pratiques lorsqu'il est arrivé au Miqat au mois de Dhul-Qa'da lors de son pèlerinage d'adieu. Cependant, la Sunna recommande au pèlerin, lorsqu'il n'a pas d'offrande, de sacrifice à faire, de commencer par l'Ihram en vue de la Umrah et d'agir, comme indiqué précédemment, pour celui qui arrive au Miqat en dehors de la période du Hajj, car le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a ordonné à ses compagnons, à l'approche de Makkah Mukarrama, de faire leur ihram pour la Umrah, et il leur a confirmé cela à Makkah. Alors ils ont fait le tawaf autour de la Kaaba, le trajet entre As-Safa et Al-Marwa, ils se sont rasés la tête et se sont libérés de leurs abstentions par obéissance à son ordre, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Quant à celui qui avait une offrande, le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, lui avait ordonné de demeurer dans son état d'ihram jusqu'au jour du sacrifice. La Sunna recommande à celui qui a une bête à sacrifier de faire son ihram pour le Hajj ou la Umrah ensemble, parce que le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, dans le même cas, avait agi de la sorte. Et il avait ordonné à ceux qui ont apporté leur offrande, parmi ses compagnons ayant formulé l'intention de faire la Umrah, de prononcer la talbiya pour le Hajj par la même occasion et de ne pas se libérer de l'Ihram jusqu'à la fin des 2 rites ensemble, c'est-à-dire le jour de l'immolation. Quant à celui qui amène son offrande avec lui et qui s'est mis en état d'Ihram en vue du Hajj, il devra s'abstenir aussi jusqu'au jour de l'immolation, de la même façon que celui qui aura réuni les 2 rites. On en déduit que celui qui s'est mis en état d'Ihram pour le Hajj uniquement, ou bien pour le Hajj et la Umrah, sans apporter d'offrande, ne doit pas persister dans son état d'Ihram. La Sunna lui recommande de considérer son Ihram pour la Umrah et donc de faire le tawaf, le sa'y, entre Al-Safa et Al-Marwa, de se couper les cheveux et de se désacraliser par la suite, comme l'a ordonné le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, à celui qui n'a pas apporté d'offrande parmi ses compagnons, à moins que ce dernier craigne de manquer le Hajj en risquant d'arriver en retard, alors il lui est permis de poursuivre et de demeurer dans son état d'Ihram, et Allah seul détient le savoir. Lorsque le pèlerin a peur de ne pas pouvoir accomplir ses rites pour raison de maladie ou par peur d'un ennemi éventuel, il lui est préférable de dire au moment de l'Ihram, s'il m'arrive d'être empêché de poursuivre mon pèlerinage, mon lieu de désacralisation est là où tu m'as empêché. Conformément au hadith rapporté par Dama bin Zubayr, qui a dit, ô envoyé d'Allah, je voudrais accomplir le Hajj et je me sens malade. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, lui dit
« Fais ton pèlerinage et prononce la formule « Mon lieu de désacralisation est là où tu m'as empêché de poursuivre mon pèlerinage. »
Hadith approuvé par Bukhari et Muslim, l'utilité de cette condition réside dans le fait que s'il arrive au pèlerin en ihram, ce qui est de nature à l'empêcher d'achever son rite, telle une maladie ou un ennemi qui l'attaque, il lui sera permis de se désacraliser sans prescription ni sacrifice.
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك.
Qu'est-ce qui est permis et qu'est-ce qui est interdit pour le hajj en état d'ihram?
Il est interdit à celui qui est en état d'ihram, après en avoir formulé l'intention, qu'il soit mâle ou femelle, de couper une partie de ses cheveux ou de ses ongles, ou bien de se parfumer. Et il est interdit au mâle, surtout, de porter un habit cousu ou façonné, tel la djellaba, le pantalon, les chaussettes, sauf s'il n'a pu trouver de paille. Alors, il lui est permis de mettre un pantalon et aussi, s'il n'a pu trouver de sandales, descend les talons et orteils découverts, le port des pantoufles lui est permis, sans être obligé d'en couper la partie supérieure, conformément au hadith rapporté par Ibn Abbas, attesté dans les deux sahih, selon lequel le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit:
celui qui ne trouve pas de sandales, qu'il mette des pantoufles, et celui qui ne trouve pas de pagne, qu'il mette un pantalon.
Il est permis aux pèlerins en état d'ihram de mettre les pantoufles dont les bords ne dépassent pas les chevilles, du même genre que les sandales. Il lui est permis de nouer son pagne ou de l'attacher à l'aide d'une ficelle, etc., car il n'y a pas de preuve d'interdiction à cela. Il est permis de se laver le corps, de se laver la tête et de se gratter au besoin avec précaution, et s'il tombe quelques cheveux par la suite, il n'est pas blâmable. Il est interdit à la femme en état de ihram de se couvrir le visage d'un linge cousu comme le voile ou le masque et de mettre des gants à ses mains conformément au hadith du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui.
La femme ne doit pas se voiler le visage, ni mettre de gants.
Rapporté par Al-Bukhari. Et les gants signifient ce qu'on coud ou on tisse à la forme des mains, en laine, en coton ou autre. Elle est autorisée à mettre des vêtements cousus à part cela, comme la robe, le pantalon, les pantoufles, les chaussettes, etc. Il lui est aussi autorisé de descendre son voile sur son visage lorsqu'elle en éprouve le besoin sans bandage, et si le voile touche son visage, elle n'est pas en faute, conformément au hadith de Aïcha, Allah soit satisfait d'elle, qui a dit: les caravaniers passaient à côté de nous alors que nous étions avec l'envoyé d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Lorsqu'ils nous côtoyaient, nous nous cachions le visage à l'aide du linge qui nous couvrait la tête, et lorsqu'ils nous dépassaient, on se découvrait à nouveau. Rapporté par Abu Daoud et Ibn Majah, et Dharqutni rapporte un hadith pareil de Umm Salama. Aussi, la femme peut se couvrir les mains à l'aide de son habit ou autre, et elle doit se couvrir le visage et les mains en présence des hommes qui lui sont étrangers, car cela est exigé conformément aux paroles d'Allah, gloire à lui, le Tout-Haut.
ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن.
Et qu'elles ne montrent leurs atours qu'à leur mari.
Et il n'y a pas de doute que le visage et les mains sont considérés comme grandes parures. Et le visage n'est encore plus fort. Allah le Tout-Haut a dit:
وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَظْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ.
Et si vous demandez à ces femmes quelques objets, demandez-le leur derrière un rideau. C'est plus pur pour vos cœurs et leurs cœurs.
Quant à l'habitude qu'ont plusieurs femmes de mettre le bandeau sous le voile pour le relever au-dessus du visage, elle n'est pas d'origine légitime à ce conseil. Et si cela était, le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, l'aurait indiqué à sa communauté et ne l'aurait pas gardé sous silence. Il est permis à celui qui est en état d'ihram, homme ou femme, de laver les vêtements qu'il portait dès son ihram à cause de la saleté ou autre et de les changer par d'autres. Et il lui est interdit de porter des habits qui ont été contactés par le safran ou le parfum, car le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, l'a interdit dans le hadith rapporté par Ibn Umar. Le pèlerin en état d'ihram doit s'abstenir des relations conjugales, de perversité et de disputes, conformément à ce qu'a dit le tout haut.
Le pèlerinage a lieu dans des mois connus. Si l'on se décide à l'accomplir, alors point de rapports conjugaux, point de perversité, point de dispute.
Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit dans un hadith approuvé,
quiconque accomplit son hajj en s'abstenant de la luxure et de la méchanceté sera sans péché, tel un enfant nouveau-né.
La luxure qualifie les rapports sexuels et les paroles et actions perverses, et la méchanceté implique la controverse et les disputes sans raison valable. La discussion raisonnable en vue d'accéder à la vérité et de repousser l'erreur est permise et recommandable même, conformément aux paroles d'Allah le Tout-Haut,
par la sagesse et la bonne exhortation. Appelle ces gens au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure façon.
Il est interdit aux pèlerins mâles en état d'ihram de se couvrir la tête avec un couvre-chef qui soit en contact direct avec, comme le chapeau, l'écharpe et le turban, etc. Il en est de même pour le visage qui doit être découvert conformément au dire du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, à propos de celui qui est tombé de sa monture le jour de Arafat et qui est mort.
Lavez-le à l'eau et au seuil du gibier et enveloppez-le dans ses deux vêtements, et ne lui voilez ni la tête ni le visage, car il sera ressuscité le jour de la résurrection prononçant la telbia.
Hadith réunissant l'accord de tous, cité ici selon le texte rapporté par Muslim. Quant au fait de se mettre à l'ombre du toit d'une voiture ou d'un parasol ou autre, cela est permis au même titre que l'ombre de la tente, de l'arbre, conformément à ce qu'on rapporte dans As-Sahih, que le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, s'est mis à l'ombre d'un habit lorsqu'il a lapidé la stèle de l'Aqaba, et l'on assure que le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, est demeuré sous une tente qu'on a dressée pour lui à Namira, jusqu'à l'inclinaison du soleil le jour de Arafat. Il est interdit à l'homme et à la femme en état d'ihram de tuer du gibier terrestre et d'aider à cela comme de le faire fuir de son gîte et de contracter un mariage ou des rapports sexuels et de demander la main des femmes et de s'adresser à elles avec désir comme le prescrit ce hadith de Othman, qu'Allah soit satisfait de lui, que le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit
« Quiconque est en état d'ihram ne doit ni se marier, ni marier quelqu'un, ni même se fiancer. »
Ce hadith a été rapporté par Muslim. Lorsque le pèlerin en ihram porte un vêtement cousu ou se couvre la tête ou se parfume par distraction, oubli ou par simple ignorance, aucun sacrifice ne lui est imposé et il devra ôter cela lorsqu'il se rappelle ou lorsqu'il en prend connaissance. Il en est de même, selon l'avis le plus probant, pour celui qui se rase la tête ou se coupe les cheveux, tant soit peu, ou se coupe les ongles par suite d'oubli ou d'ignorance. Il est proscrit aux musulmans, hommes ou femmes, qu'ils soient en état d'ihram ou pas, de chasser dans les lieux saints ou d'aider à tuer le gibier en fournissant une arme ou un renseignement, etc. Il est également interdit de rabattre le gibier en le faisant fuir de son gîte. Et il est interdit de couper les arbres des lieux saints et toute plante verte ou de ramasser des objets appartenant à autrui, sauf pour celui qui veut déclarer sa trouvaille, conformément au hadith du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, approuvé par Al-Bukhari et Muslim.
Ces lieux, c'est-à-dire Makkah al-Mukarrama, demeure saint par la sainteté d'Allah jusqu'au jour de la résurrection, on n'ébranche pas ses arbres, on ne poursuit pas son gibier, on ne coupe pas son herbe verte, rien ne peut s'y ramasser, sinon pour le déclarer.
Il faut préciser que Mina et Muzdalifa font partie des lieux sacrés, cela veut dire du territoire d'Al-Haram al-Makki, alors que Arafat est dans la partie non sacrée.
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك.
Que doit faire le pèlerin à l'entrée de Makkah al-Mukarrama?
Lorsque le pèlerin en état d'ihram arrive à Makkah al-Mukarrama, il lui est préférable de se laver avant d'y pénétrer, parce que le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a fait cela. En arrivant à la mosquée sacrée, il lui est recommandé par la sunna d'avancer son pied droit en disant
« Au nom d'Allah, paix et bénédiction sur le messager d'Allah, je cherche refuge auprès d'Allah le majestueux, par sa face honorée et son autorité éternelle contre Satan de l'impiété. Ô Allah, ouvre-moi les portes de ta miséricorde. »
Ceci sera répété à l'entrée de chaque mosquée sans spécificité pour l'entrée de la mosquée sacrée, comme l'a confirmé le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Lorsqu'il arrive à la Kaaba, il cesse la talbiya avant de commencer sa procession s'il est en tamattu', ou s'il fait la Umrah isolément. Et puis il se dirige vers Al-Hajar al-Aswad, la pierre noire, face à la Kaaba, et il essaie de la toucher de la main droite et de la baiser si possible, sans causer du tort aux autres par la bousculade. Et il dit en la saluant, « Bismillah, Allahu Akbar, au nom d'Allah, Allah est plus grand. » Et s'il lui est difficile de baiser la pierre noire, il tend sa main ou sa canne dans sa direction, et puis baisera ce qu'il aura touché. À défaut, il sera s'il est dans sa direction, il dit « Allahu Akbar ». Il ne baisse cependant pas ce dont il fit signe, et pendant le tawaf, il doit avoir la Kaaba à sa gauche. Et s'il dit au début du tawaf
« Seigneur, la foi t'est due, la croyance en sa véracité est due à ton livre, l'accomplissement de la promesse est dû à l'engagement pris envers toi, la fidélité est due à la pieuse pratique de ton prophète Mohammed. Paix et bénédiction d'Allah sur lui. »
Cela est agréé par ce que rapportait du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui. On doit faire le tour de la Kaaba cette fois en accélérant le pas aux trois premiers circuits, Raman, au cours du premier tawaf, d'arriver à la Mecque, soit en vue d'accomplir la Umra uniquement, ou lorsqu'on est en tamattu', ou en visant le Hajj uniquement, ou en Qiran, réunion des deux rites. Les quatre circuits suivants seront accomplis au pas ordinaire. On commence chaque tour à la pierre noire et on termine de même. Ar-Ramal signifie l'accélération de la marche à pas rapprochés. Et il est préférable de passer sa houppelande sous l'aisselle droite et sans couvrir l'épaule gauche tout le long de ce tawaf. S'il lui arrive de douter du nombre de tours accomplis, il doit en considérer le minimum. Par exemple, s'il doute d'avoir fait 3 tours ou 4, il devra continuer en considérant 3 seulement. Il agira de même au cours du Sa'i entre As-Safa et Al-Marwa. À l'issue du tawaf, il met sa houppelande sur ses épaules avec les deux bouts sur sa poitrine avant de faire l'office de 2 rak'at de la circumambulation autour de la Kaaba. Ce dont il faut blâmer les femmes et les en prévenir, c'est d'accomplir leur tawaf avec leur parfum sans discrétion, sachant que cela est prohibé en ces lieux. Il faut donc qu'elles soient discrètes et qu'elles s'abstiennent de la parure pendant la circumambulation ou ailleurs, là où il leur est inévitable de rencontrer des hommes, car elle constitue une cause de fascination, et comme le visage de la femme est sa parure la plus apparente, il lui faudra le cacher, sauf en présence de ceux qui lui sont proscrits, conformément aux paroles d'Allah le Tout-Puissant.
Et qu'elles ne montrent leurs atours qu'à leur mari.
Il ne leur est pas permis de se découvrir le visage en baisant la pierre noire si elles risquent d'être vues par les hommes. Et lorsqu'il ne leur est pas possible de toucher la pierre noire et de la baiser, il ne faut pas qu'elles se bousculent avec les hommes, elles se contenteront de faire leur tawaf assez loin derrière eux. Car ceci est préférable et de meilleure récompense que de le faire en se bousculant au milieu des hommes tout près de la Kaaba. L'accélération des pas et la houppelande recouvrant l'épaule gauche n'est pas permise que pour ce tawaf, le premier, ni pendant le sa'i entre As-Safa et Al-Marwa, ni pour les femmes, car le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, n'a accéléré le pas et n'a porté sa houppelande de cette façon que pendant sa première circumambulation accomplie à son arrivée à Makkah al-Mukarrama. Lors du tawaf, le pèlerin doit être débarrassé par ablution de toute impureté et doit être soumis à son Créateur avec humilité. Il lui est préférable de multiplier les invocations. Et s'il récite cependant des versets du Saint-Coran, cela sera méritoire. Il n'y a pas dans la circonvolution, ni dans les autres, ni même pour Asai, entre Safa et Al-Marwa, de formule déterminée à dire cependant ou d'invocation spécifique. Et tout ce qu'on peut dire comme invocation sera suffisant. Lorsque le pèlerin arrive à proximité du coin Yamani, précédant celui de la pierre noire, il le touche avec sa main droite et dit « Bismillah, Allahu Akbar. Au nom d'Allah, Allah est plus grand. » Il ne doit pas le baiser ni allonger le bras.